Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de la Grande Tchatch, le Ravi Radio Grenouille, dernière émission de l'année 2010, c'est pas rien. La Grande Tchatch, c'est tous les 4e samedis du mois sur les 3-8, le Ravi, c'est tous les 1er vendredis du mois dans tous les kiosques de la région PACA, également sur internet www.leravi.org. Je rappelle également que la campagne d'abonnement au Ravi est toujours d'actualité, donc faites-vous plaisir, le Ravi c'est pas cher, en plus on y apprend beaucoup. Arlette Fructus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes abonné au Ravi ?
Pas encore.
Ah, bah,
peut-être que vous allez me convaincre de le faire pour l'année prochaine.
Aujourd'hui donc avec nous Arlette Fructus, présidente régionale du Parti Radical, Kézako, on verra ça tout à l'heure avec Michel Guéraud, le Parti Radical valoisien, également adjointe à la mairie de Marseille, en charge du logement et de l'habitat insalubre, conseillère régionale, ça fait beaucoup de choses. Arlette Fructus, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Noël, la crise et le chômage n'y changent rien, l'heure est au cadeau, au champagne et à la fête. Chers auditeurs, sacré Vénard, nous offrons donc dans vos petits souliers l'émission dont vous avez toujours rêvé. Car nous recevons Arlette Fructus, la présidente régionale du parti le plus sexy et le plus tendance du moment. Qui l'eût cru ? Le parti radical valoisien, le plus vieux de France, serait donc top tendance. Eh bien oui, mille fois oui. C'est avant tout la faute au père Borloo. En lui préférant une fois de plus Fillon comme Premier ministre, Nicolas Sarkozy a donné à Jean-Louis un petit supplément d'âme comme un certificat de rebelle attitude propre à séduire les brebis égarées du gouvernement. La Ramayade vient donc de rejoindre les radicaux. Et vous avez aussitôt annoncé avec gourmandise qu'elle allait nous rendre visite. Du coup, Fadela Amara envisage elle aussi de rallier le parti radical, mais là, curieusement, tout le monde s'en moque. Alors soyons honnêtes, ce n'est pas toujours rigolo de militer au parti radical, on n'y prend pas souvent la lumière. Vous présidez la fédération régionale depuis 97, celle des Bouches-du-Rhône depuis 96, vous êtes numéro 3 sur l'organigramme national des radicaux depuis 2007, conseillère régionale depuis 98, adjointe au maire de Marseille depuis 2008, députée suppléante à plusieurs reprises, chargée de mission auprès de ministres, et vous restez toujours inconnue pour l'électeur lambda, les ingrats. Et puis vos amis de l'UMP, dans lequel votre parti est intégré et peine à se distinguer, ne vous font pas toujours de cadeaux. Lorsqu'ils vous envoient vous casser les dents en 2002 aux législatives à Istres sur des terres socialistes, ou lorsqu'ils vous chargent de monter au front lors des municipales marseillaises aux côtés du soldat Roita, avec lequel vous n'avez pas réussi à sauver la mairie d'arrondissement face à l'artillerie lourde de Minucci. La vie politique n'est pas de tout repos. Vous l'avez appris très tôt, fille du socialiste René Olmeta, toujours conseiller général après une longue carrière. Vous avez donc suivi les pas de votre père, mais en optant pour le centre droit et pour Jean-Claude Gaudin, son rival direct lors des municipales en 2001. En somme, vous avez pratiqué l'ouverture avant que Sarko n'en fasse un usage industriel et éphémère. Évitons de trop vous contrarier. 2 fois 200 Corses, avocate, comme votre mari, nouveau proconsul marseillais du Burkina Faso, vous n'êtes pas vraiment le genre à tendre la joue gauche. De toute façon, je me suis grillé, commencer et puis conclure par des références à Noël et à Jésus, le portrait d'une radicale, résolument laïque, je crois que j'ai encore tout faux.
Avec Fructus, un commentaire
excellent,
à ce portrait.
Excellent. Non, c'est parfait. Plein d'humour et en même temps, vous avez cerné l'essentiel. C'est dur de faire, de porter la voix radicale dans certains territoires, c'est pour moi un bonheur quotidien. C'est un choix. Vous avez dit que mon parcours familial m'aurait peut-être effectivement ouvert des portes ailleurs. C'est un choix donc que j'ai fait en connaissance de cause, parce que c'est un parti politique qui pour moi représente des valeurs fondamentales et qui sont au cœur de l'actualité, au cœur de notre République.
Michel Guéraud.
Alors, on a quand même du mal à suivre cette histoire de parti radical associé, intégré à l'UMP. Je crois avoir compris qu'à un moment donné, quand on adhérait au parti radical, on était automatiquement adhérent à l'UMP. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on peut choisir. Il y a quand même un petit peu...
Vous voulez une explication?
Oui, ouais, voilà. Peut-être des choses.
Alors, je peux vous la donner, d'autant plus précisément qu'à cette époque-là, c'était en 2002, et j'étais numéro 2 du parti, secrétaire générale du parti, et que le Parti radical, naturellement, était dans la famille UDF, et que le candidat naturel également pour nos familles était à l'époque François Bayrou.
Un coucou au passant à Monsieur Rocassera qui a disparu.
Oui. Mais là, je parle de François Bayrou, c'est à notre niveau. à cette époque-là, 2002, les radicaux ont senti vraiment de façon très, très forte qu'il fallait faire un choix sur une candidature qui rassemble le plus possible parce qu'il y avait l'imminence d'un danger et le résultat électoral nous a donné mille fois raison. Donc ce choix que nous avons fait, nous l'avons fait en congrès. Nous sommes la seule famille politique à avoir fait un congrès. Le RPR n'a rien fait, DL non plus. Les radicaux ont fait un congrès pour choisir le candidat qu'ils souhaiteraient soutenir pour les présidentielles. Et ce qui est sorti de nos urnes, c'est Chirac. Partons de là, Chirac étant le candidat des radicaux, nous avons travaillé à une idée qui nous est chère, celle du rassemblement. Parce que les radicaux, leur axe de travail, c'est rassembler, fédérer le plus possible. Donc, nous avons proposé au président de la République de réfléchir à l'organisation d'une famille politique élargie et rassemblée qui s'est appelée d'abord l'Union en mouvement, c'est celle qui a porté les candidats aux législatives, et qui s'est transformée en Union pour un mouvement populaire en octobre de l'année 2002. Et dans ce contexte-là, les radicaux ont posé une condition. Un préalable, c'est que nous travaillerons à la fondation d'une famille, d'une maison commune, tout autant qu'on avait la garantie de pouvoir rester un parti en tant que tel. Une formation politique avec son siège, son organisation personnelle, etc. Et c'est en cela que nous avons obtenu gain de cause et c'est pour ça que nous sommes le seul parti qui existe encore. Le RPR a disparu, DL a disparu, Force démocrate a disparu, mais le Parti radical existe, a son siège historique et continue à mener sa vie politique en association avec l'Union pour un mouvement populaire. Et c'est depuis 2002 que nous travaillons dans ce cadre d'association. C'est un cadre contractuel, mais nous avons notre propre vie. Donc quand vous parlez de carte UMP, effectivement, cette association prévoit que si on prend une carte du Parti radical, on peut avoir automatiquement une carte UMP.
Bon. Mais l'inverse... Face à un mouvement comme l'UMP, aussi puissant, aussi... parti très, très, très centralisé, face à une personnalité comme celle de Nicolas Sarkozy, très omniprésente, comment exister, comment faire entendre sa différence?
Oui, alors là vous avez franchi quelques années, puisque nous étions en 2002 et c'était Jacques Chirac et c'était Juppé qui était président de l'UMP. D'accord. À ce moment-là. On est passé au présidentiel dernière, élection de Sarkozy et puis organisation de l'UMP avec un nouveau secrétaire général. Donc depuis 2002, ce qui est important de voir, on est en 2010, ça fait quand même 8 ans que nous fonctionnons dans le cadre de cette association dans ce cadre contractuel. Alors évidemment ce n'est pas facile de travailler dans ce contexte-là parce que la perception des militants UMP, le gros des troupes militantes, ce sont les anciennes familles, RPR, DL, qui constituent ces troupes-là. Et ils ne comprennent pas que le Parti radical existe encore en tant que parti. Ils ne comprennent pas que, par exemple, moi, j'organise des réunions strictement Parti radical, auxquelles d'ailleurs Ils sont conviés s'ils veulent y assister. Mais, alors c'est de la pédagogie au quotidien. Et les relations, par contre, avec l'équipe dirigeante UMP des Bouches-du-Rhône, par exemple, se passent plutôt bien. Mais il faut parfois taper du poing sur la table.
Alors, quid aujourd'hui de cette association ? On est passé d'une association étroite, c'est ce que vous avez dit. Aujourd'hui, elle semble un petit peu distendue. Certains radicaux dénoncent, le mot n'est pas... Je reprends le mot, hein, dénonce la RPisation de l'UMP. On a fait finalement un petit tour pour rien, on est revenu au point de départ.
C'est quand même pas un petit tour, je vous parle de 8 ans quand même. Hein. 8 ans de travail, c'est pas un petit tour. Non, pour le moment, la question qui se pose aux radicaux aujourd'hui, c'est pas tellement en termes d'organisation avec l'UMP, c'est vis-à-vis des Français. Hein. Nous, on a quand même un rôle politique à jouer et des messages à faire passer aux Français. On considère qu'à l'heure actuelle, le message important qu'attendent les Français est un message qui soit beaucoup plus recentré, si j'ose dire, sur toutes les préoccupations d'ordre social. Hein, je veux dire, c'est pas à vous que je vais expliquer la crise économique, la crise financière, les problèmes de chômage, les problèmes de logement, on en parlera certainement, les problèmes des jeunes, les problèmes des seniors, comment vivent-ils la réforme de la retraite, ça c'est vraiment des champs ouverts pour un travail politique et des réponses à former. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment que c'est pas le choix de travail qui a été fait pour les années à venir par nos partenaires. Ils sont sur d'autres registres et nous souhaitons continuer à les porter. Et un autre registre qui est extrêmement important et qui est la marque de fabrique du Parti radical, c'est celui de la laïcité.
Est-ce que vous n'avez pas quand même amené une caution à ce qui était le projet politique de Nicolas Sarkozy, à savoir une droite décomplexée qui nous éloigne quand même du courant social républicain humaniste que vous souhaitez
un programme qui n'a jamais caché.
Donc, est-ce qu'on ne va pas retenir de ce gouvernement auquel vous avez participé, une droite musclée, décomplexée, le débat par exemple sur l'identité nationale, vous étiez à l'aise dans ces thématiques-là, la main tendue
aux électeurs d'extrême droite. Et vous allez comprendre. Moi, j'ai organisé une réflexion en même temps dans ma fédération et nous avons réfléchi non pas à l'identité nationale, mais à la cohésion républicaine. C'était nos
Arlette
choix.
Fructus, c'est un petit peu de la cosmétique quand on a Borloo, qui est le patron actuellement des radicaux, qui participe, qui continue à siéger dans un gouvernement qui lance, qui assume ouvertement ce débat. Vous ne pouvez pas vous organiser à l'échelle d'une fédération un débat qui passe un petit peu inaperçu.
Non mais bien sûr, vous parlez de cosmétique, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, je comprends ce que vous voulez dire. Borloo continue à cette époque-là à être au gouvernement, mais il est sur quand même un registre qui est d'une autre dimension. C'est celui du Grenelle de l'environnement. Hein. Et je pense que ce qui est très important, c'est de voir que depuis 2002, nous avons quand même au gouvernement des radicaux, que ce soit François Loz qui a été ministre du Commerce extérieur, de l'Industrie, que ce soit Laurent Hénard, l'actuel secrétaire général du parti, qui a été secrétaire d'État chargé de l'apprentissage et qui a mis en place quelque chose de quand même révolutionnaire, c'est l'Agence des services à personnes qu'il préside et qui a travailler sur le développement d'un secteur économique nouveau et porteur, celui des services à la personne. Et on voit bien l'impact que ça a et l'importance économique que ça peut avoir dans notre société. On a Jean-Louis Borloo, gouvernement, qui a travaillé pendant la période Chirac sur la cohésion sociale avec des actions que tout le monde unanimement salue et reconnaît comme indispensables, ayant transfiguré l'image de certaines de nos villes et de nos quartiers. Et période Sarkozy, on a un Borloo qui travaille sur quelque chose de fondamental, c'est le Grenelle de l'environnement et la prise en compte de la dimension du développement durable dans toute l'action politique qu'on doit mener, et qui le fait avec le succès qui lui a été reconnu.
Ça veut dire que vous cautionnez pas ce qu'a pu faire ce gouvernement, ou ce qu'il fera? Vous ne cautionnez pas, vous, Arlette Fructus?
Il y a effectivement certaines approches que je ne partage pas.
Lesquelles ?
Vous avez évoqué le débat sur l'identité nationale. J'entends avec effroi que certains voudraient le relancer. Je pense que c'est la dernière des choses à faire. Et que, effectivement, quand je vous parle de cohésion républicaine, c'est à ça qu'il faut travailler. C'est vraiment se ressourcer, retrouver qu'est-ce qui peut rassembler et fédérer les Français aujourd'hui, autour de quoi ? Et certainement pas autour d'une notion d'identité nationale qui, en elle-même, est porteuse d'un rejet qui a été largement ressenti par une partie des Français.
On reviendra tout à l'heure à la région, mais là je fais un crochet, je pense à Thierry Mariani qui a intégré le gouvernement au moment où Jean-Louis Borloo le quittait. Il fait partie de cette droite musclée, il a créé un mouvement, la droite populaire, il y a beaucoup de députés de la région et du département qui y sont. On est assez loin, il me semble, des valeurs du Parti radical, ou je me trompe?
Monsieur Mariani, ancien candidat au régional.
Oui, tout à fait, Thierry Mariani, ancien candidat au régional. Écoutez, je vous répondrai que c'est pour ça que j'ai choisi de rester au Parti radical. j'ai pas les mêmes...
Et pourtant, au régional, vous étiez sur sa liste. Oui. Est-ce qu'on peut toujours à la fois comme ça être avec et en même temps contre? Est-ce que vous n'êtes pas la caution? Vous avez souvent reproché, par exemple, aux Verts de servir, au ministre Vert de servir de cosmétique et d'alibi à un parti socialiste qui n'était pas très attaché aux questions environnementales. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette même posture, à savoir un petit peu une caution sociale dans un gouvernement de droite dur?
J'aime pas le terme de caution, parce que, si vous voulez, les choix qu'on fait sont des choix mûrement réfléchis. Et l'engagement, la régionale, derrière Thierry Mariani, tête de liste, il s'est fait, en ce qui me concerne, sur un programme qu'on a bâti ensemble. Hein. Et sur ce programme-là, je n'enlèverai pas une virgule au texte que nous avons proposé aux administrés de la région. Hein. Donc chacun aussi a fait le point et on a bâti un programme qui puisse convenir à tout le monde, tous les membres de cette liste. Donc là, il n'y avait rien qui me gênait. Après, les postures que prend Thierry Mariani en tant que député, c'est des choix que je ne partage pas. Je soutiens mes amis députés radicaux, mais j'adhère pas forcément au choix de...
C'est-à-dire que les radicaux aujourd'hui peuvent avoir des valeurs qu'on pourrait qualifier d'élastiques, c'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure on a la cohésion sociale, on peut passer sur l'affaire des Roms et de l'identité nationale?
Non, bien sûr que non, on ne peut pas passer sur des choses pareilles. Moi j'ai très mal vécu l'été qu'on a passé. Et c'est aussi une accumulation de postures qui ont été délibérément portées à la fois par le gouvernement, à la fois par l'UMP, qui fait qu'on arrive finalement au terme d'un processus qui nous amène à faire des choix. C'est le choix que Jean-Louis Borloo a fait. La main tendue, le fait de dire moi, je postule pour être Premier ministre. Enfin, il n'a jamais dit comme ça, mais bon...
Il l'a dit capillairement.
Oui. Et d'ailleurs... il a ça a été sujet de moquerie. Mais si vous voulez... Où nos amis partenaires sont dans l'esprit qui est nécessaire à un contrat et un partenariat, c'est-à-dire celui de l'écoute et du partage, et puis chacun fait des efforts, réfléchit, amende, tient compte de l'autre. Où on ne tient pas compte de ce qui est important pour l'un des partenaires, et effectivement, on doit prendre du recul et des décisions. Donc, on ouvre une porte et on dit, nous, on peut porter pour l'année 2011 des valeurs qui sont celles qui nous correspondent et qui correspondent à l'attente des Français et qui ont trait à la cohésion sociale. Et on est là pour travailler avec vous, pour les mettre en œuvre. c'est pas ce qui a été retenu. C'est pas le choix que le président de la République a fait. Le président de la République a fait un choix beaucoup plus resserré. Il s'est replié sur un message finalement très authentiquement RPR, on va dire. Et donc ça nous va pas tout à fait.
Donc il y a une cassure là. Alors là, vous dites aujourd'hui il y a une cassure ou il y a une fissure en tout cas.
Il y a en tout cas matière à réflexion et matière à décision. Retrait de l'équipe gouvernementale. Jean Le Borloo n'a pas caché que le président de la République lui a proposé plusieurs autres postes intéressants. Il l'a refusé parce que, voilà, ce à quoi on est attaché, c'est pas un portefeuille ministériel, c'est apporter vraiment des valeurs et à être utile dans le débat politique. Et ensuite, au niveau de l'organisation de l'UMP, on a décidé qu'aucun radical ne participerait à l'exécutif nouveau mis en place par Jean-François Copé.
Vous voulez dire que les cadres ont démissionné de l'UMP ? Les cadres radicaux ont démissionné de l'UMP ?
Ah mais ils n'en font pas partie.
Michel ?
Le bouclier fiscal, ça fait partie du passif ? C'est un boulet pour vous dans, ça fait partie des choses qui n'auraient pas dû se faire comme ça ? Ou au contraire, bon, pourquoi pas ? Alors on parle maintenant de la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est une bonne idée ?
Oui, enfin, je crois qu'il faut aller plus loin. La fiscalité, c'est un champ de travail gigantesque et on ne peut pas aller de mesurette en mesurette, d'annonce ponctuelle en annonce ponctuelle. Je crois qu'on ne peut pas éluder le travail colossal qu'il y a à faire, c'est de mettre à plat notre fiscalité et de réfléchir à une réorganisation qui porte surtout la nécessité de l'équité fiscale. Voilà. Donc, ces débats sont, à mon avis, inopportuns. Le vrai débat, c'est est-ce que on se lance dans une réforme fiscale en profondeur ? On en parle depuis des années. Chaque fois, tous les gouvernements ont reculé, on fait des adaptations, on fait des suppressions d'impôts, on fait. Mais voilà, le champ du travail, il est devant nous.
À ce jour, quand même, il y a ce qui prédomine, c'est le sentiment que le gouvernement a fait un cadeau aux plus riches dans ce pays, avec ce bouclier.
Sur fond de crise, hein, quand même,
dans ce contexte-là. Et oui. Est-ce que, en supprimant l'impôt sur la fortune, c'est la bonne façon pour équilibrer on a l'impression qu'il y a un cadeau succède à un autre cadeau ? Ou est-ce qu'on se trompe ?
Non, moi, je comprends que les Français puissent percevoir les choses comme vous les exposez. Sauf que... ce que je veux dire, c'est que le bouclier fiscal était annoncé comme une mesure qui était une garantie de rapatriement de quand même sommes colossales qui étaient à l'étranger. Bon, si c'est ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose parce que notre économie a besoin d'être renflouée.
Ouais, ce qui est quand même dramatique, alors, c'est qu'un mandat après, vous vous posez quand même la question de savoir si c'est ça, est-ce que c'était bien. Je veux dire, il y a eu tout un mandat pour...
Non mais écoutez, on est là, on a une heure de discussion. Oui. Voilà, on échange. Moi, si vous voulez que je vous réponde abruptement, je vous réponds abruptement si c'est comme ça que vous... Je vous dis, pourquoi pas, c'était pas une mauvaise idée. À l'épreuve des faits, je trouve que c'est une mauvaise idée. Voilà. C'est aussi clair que ça.
Michel.
Voilà,
clair. Vous avez parlé du Grenelle de l'environnement. C'est effectivement un gros dossier qui a été porté par Jean-Louis Borloo et qui a fédéré, y compris au-delà de l'UMP, hein, même sur à gauche. Sentiment aussi que la porte est refermée aujourd'hui ou non, il en reste quelque chose de ce Grenelle. Il y a beaucoup de frustration qui s'exprime en disant il y avait des intentions, il y avait une dynamique et finalement elle n'est pas employée à la hauteur des espérances des uns et des autres. Mm. Je pense à Nicolas Hulot qui discute encore récemment avec Jean-Louis Borloo et qui semble plus que déçu, peut-être prêt à partir en campagne lui aussi. Là il y a... Oui. Il y a un sentiment d'échec ou de renoncement. Enfin, quelle est votre analyse là-dessus ?
Mon analyse est que on a mis en œuvre avec le Grenelle de l'environnement d'abord une méthode de travail. Et ça, si vous voulez comprendre les radicaux, c'est essentiel. Notre méthode de travail, notre façon de travailler, c'est de mettre les gens concernés, bien sûr les acteurs, concernés, tous les acteurs concernés, autour d'une table, de façon à pouvoir générer un dialogue et arriver à bâtir un projet qui soit un projet partagée. Le Grenelle de l'environnement, ça a été ça, sur un sujet majeur qui concerne la France, mais au-delà de la France, la planète. Hein. Et donc, on avait des associations, des acteurs qui toujours engagés dans la défense de l'écologie, enfin, des tas de gens qui se sont pour une fois parlé et qui se sont mis d'accord sur un cadre. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été sans difficulté, c'est évident, c'est pas des méthodes simples. Le plus simple serait de dire on fait comme ça et c'est terminé, on impose à tout le monde. Sauf que ce qui a émergé du Grenelle de l'environnement, c'est vraiment des choix et des orientations qui vont impacter toutes les années à venir. Et je vous parle notamment...
À condition de les mettre en pratique.
Oui, mais la plupart d'entre elles sont en œuvre. Évidemment, on peut avoir des frustrations parce qu'il y a des reculs. Ces reculs, moi, je suis pas favorable à ce qu'ils soient mis en œuvre. Parce que je pense qu'un grand cap a été franchi et qu'il faut aller jusqu'au bout. Les options ont été arrêtées et il ne faut pas avoir peur de poursuivre l'action en mettant en œuvre l'ensemble des dispositifs que le Grenelle porte. Bon, regardez dans le domaine du bâtiment. En 2012, vous n'aurez pas un seul bâtiment qui sortira et qui sera construit qui ne soit pas respectueux des normes BBC, c'est-à-dire les normes d'économie d'énergie maximale. Aujourd'hui, les promoteurs qui déposent les permis de construire, ils sont déjà... avec ces normes-là qui mettent en œuvre. On est en 2010 et le terme imposé par le Grenelle, c'est 2012. Donc on anticipe et tout ça pour le bien commun.
Alors on a parlé un petit peu des avancées. Le Parti radical est en tout cas au devant de l'actualité depuis quelques temps avec M. Borloo, avec le départ du gouvernement de M. Borloo. Vous avez eu un renfort de poids dernièrement, c'est Mme Ramaya, l'ancienne secrétaire d'État. Un mot sur ce renfort?
Oui.
Qui, elle, n'arrête pas de louer, par contre, la droite sociale et humaniste que représentent les radicaux. Hein.
Exactement. Mais parce que je pense que, en fait, c'est un rapprochement qui a beaucoup de sens par rapport au parcours que j'ai pu évaluer de Ramayad. Et surtout par rapport au message qu'elle a porté à travers à la fois ses fonctions au sein de l'UMP, puis après à ses fonctions gouvernementales. Je pense qu'elle se sentait à l'étroit et pas suffisamment entendue sur les valeurs qu'elle voulait voir défendues par l'équipe gouvernementale, par l'UMP. MP va porter. Et aujourd'hui, je crois qu'elle était jusqu'au bout de la main tendue vis-à-vis de sa famille UMP, disant moi j'aimerais bien travailler sur la cohésion sociale et on l'a renvoyé dans ses buts.
Mais c'est pas un peu suspect que l'UMP fasse son deuil aussi rapide de Ramayad? Ça veut dire que finalement sa valeur ajoutée n'est pas si importante que ça, non?
Écoutez, je sais pas quel est l'état d'esprit de l'UMP, mais moi je trouve que c'est une bonne chose pour le Parti radical. J'ai eu une discussion avec elle, une discussion téléphonique d'une heure avec elle. Je pense qu'on va faire un excellent travail et notamment sur, vous parliez de Nicolas Hulot tout à l'heure. Nicolas Hulot, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour les présidentielles dernières, c'était ce pacte écologique qu'il a imposé à tous les candidats et qui d'ailleurs a contribué à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Moi, je suis fondamentalement convaincue qu'avec Ramayad, on peut travailler à bâtir un pacte national pour la jeunesse qui serait porté par les candidats au présidentiel. Donc c'est encore une démarche transcourante, transpartie, on tend la main, on ouvre la réflexion d'abord vis-à-vis des jeunes et puis vis-à-vis des autres partis politiques en leur disant attendez, est-ce qu'on n'a pas la possibilité là de bâtir un programme qui soit enfin à la mesure des attentes de notre jeunesse.
Alors Nicolas Hulot qui hésite encore à se présenter au présidentiel, enfin il hésite depuis des années donc peut-être que ça veut rien dire, mais il dit mais peut-être que si Borloo y va, j'irai pas. Enfin on sent une espèce de sympathie. Vu le mouvement un petit peu finalement de recentrage, si j'ose dire, sur ses fondamentaux, c'est-à-dire plutôt à droite de l'UMP, est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement naturel qui vous déporterait un peu sur votre gauche et pourquoi ne pas essayer plutôt de fédérer le centre que de continuer dans ce partenariat avec l'UMP qui ne semble pas être si évident que ça au regard des derniers épisodes.
Il ne vous a pas échappé que après l'épisode du Premier ministre Able, la sortie de Jean-Louis Borloo du gouvernement, les centres et les centristes se sont rassemblés et ont confié une mission à Jean-Louis Borloo, celle d'animer la réunification du mouvement centriste.
Alors avec le MoDem, avec Bayrou, ça ne va pas être simple.
Écoutez, rien n'est simple. Rien n'est simple.
On recèle, mais
il faut tenter. Il faut tenter.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille. Arlette Fructus est avec nous. On parle des radicaux. On revient un petit peu sur le renfort de poids qui est Ramayad, avec des déclarations un petit peu surprenantes. Elle reproche, ou en tout cas elle constate un rapprochement, une porosité entre l'UMP et le Front National. Est-ce que vous avez constaté cette porosité? Ou en tout cas, vous avez les mêmes craintes qu'elle.
Oui, tout à fait. Je crois qu'on partage ce diagnostic et ce sentiment que la droite actuellement, tant au gouvernement que dans le cadre de parti politique UMP, essaie d'aller le plus possible sur les terres du Front National parce qu'ils considèrent que c'est peut-être un danger et qu'il faut amoindrir l'impact que le Front National... Moi, je considère et j'ai toujours considéré que il fallait porter ses propres valeurs et pas aller sur le terrain des autres. Donc je continuerai dans cette voie, porter mes valeurs très clairement et je vous parlais tout à l'heure de la laïcité et c'est pour ça que les déclarations de Madame Le Pen me font frémir parce que rien n'est anecdotique. L'emploi des termes, surtout quand on est un responsable politique et a une ambition présidentielle, l'emploi des mots a beaucoup de sens et ce n'est pas une erreur ce n'est pas une erreur sémantique qu'elle a eue quand elle a parlé d'occupation, même si elle a expliqué après ce qu'elle entendait par ça. C'est une façon de faire de la politique qui me heurte et qui me déplaît profondément.
Vous ne dites pas que la droite extrême, c'est quand même la droite, comme certains députés du Var ou des Alpes-Maritimes ont pu le dire?
Très honnêtement, moi je suis au centre. Voilà. Donc je ne peux pas partager, non.
Vous êtes au centre, mais secrétaire départemental adjointe de l'UMP dans le Bouches-du-Rhône.
Oui, voilà. Oui, bien sûr.
Et quand Marine Le Pen récemment dit, elle l'a dit très récemment, moi les valeurs exprimées par Thierry Mariani dans la droite populaire, ça m'intéresse et s'il est sincère qu'il me rejoigne, la porte est ouverte. On sent qu'il y a des proximités. Ça doit être compliqué, vos discussions à l'UMP avec vos partenaires, à la région.
Thierry Mariani est dans le Vaucluse, je vous le rappelle.
Oui, mais il préside le groupe UMP à la région.
Voilà. Non, mais vous me dites, vous êtes secrétaire général, adjointe dans les Bouches-du-Rhône.
Vous travaillez avec Muselier.
Voilà. Je travaille avec Jean-Claude Gaudin, le président départemental, et Renaud Muselier. Voilà. Et trois autres secrétaires généraux adjoints, qui sont Bruno Gilles, Martine Vassal et Monique Roubineau.
Vous êtes encerclé, alors, entre le Vaucluse, les Alpes-Maritimes avec Estrosi, Ciotti, qui ont des positions, justement, que vous dénoncez.
Mais dans les Alpes-Maritimes, j'ai un magnifique élu qui est Jean Leonetti, député maire d'Antibes, qui fait un travail extraordinaire sur son territoire et au niveau national sur des sujets fondamentaux qui sont très radicaux comme la défense de la bioéthique.
Vous avez quitté le gouvernement, mais vous restez dans l'UMP. Vous voulez vous battre à l'intérieur pour éviter une dérive à la droite de la droite.
Alors, une chose qui doit être précisée, c'est que nous avons eu un bureau national après l'épisode de Matignon, et ce bureau a tranché, a dit, Jean-Louis Borloo quitte la vice-présidence de l'UMP, deux, il n'y aura aucun radicaux dans l'exécutif présidé par Jean-François Copé à l'UMP, et trois, nous ferons un congrès à la fin du premier trimestre 2011 pour nous déterminer sur notre choix. Est-ce qu'on reste en association avec l'UMP comme c'est le cas aujourd'hui?
Vous le souhaitez?
Ou est-ce qu'on...
Vous, à titre personnel, vous le souhaitez?
Mais moi, c'est moi qui ai demandé qu'il y ait ce congrès. Oui. Voilà.
Et vous le souhaitez donc?
Moi, je souhaite que le parti se détermine, oui, vraiment, vraiment. De toute façon, nous avons besoin d'indépendance aujourd'hui. Nous avons besoin, non pas pour nous, mais pour porter les valeurs qui ne sont pas portées par nos amis de la majorité présidentielle.
Par rapport aux auditeurs, pour être très concret, on arrive, il va y avoir une cascade d'échéances électorales à venir, les cantonales, les législatives bien sûr, mais aussi les municipales, les présidentielles. Si Jean-Claude Gaudin décide de faire alliance, Jean-Claude Gaudin ou celui qui portera la liste, décide de faire alliance avec le Front National, vous vous dites non, on n'ira pas. Jean-Claude Gaudin l'a déjà fait pour les régionales, il y a un petit bout de temps de ça.
Jean-Claude Gaudin ne fera jamais alliance avec le Front National. Voilà, ça c'est une certitude. Mais vous me parlez de tas d'échéances dans le désordre. La première échéance, c'est les cantonales prochaines. Oui, et non. Après, il y a les présidentielles. Et dans la foulée, des législatives. Donc c'est la priorité, c'est 2012. C'est quel avenir pour la France, quel président de la République et quel gouvernement et quel parlement pour la France. C'est ça qui est important. Donc, pour ça, nous allons travailler, nous, à porter un message et un programme qui, me semble-t-il, est celui qu'attendent les Français sur comment faire plus de liens sociaux, comment être à l'écoute de la classe moyenne qui va décrocher, qui sent qu'elle décroche. Voilà, c'est des questions de fond. Après, tout le reste, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Les recettes, les cuisines, les machins. Enfin,
c'est aussi une réalité, on fait aussi une liste avec ça.
On fait des listes, mais d'ailleurs il faut changer les pratiques politiques.
Ah, voilà. Vous rejoignez Bayrou ?
Non, mais Bayrou est un centriste de toute façon. Bayrou, il fait partie d'une famille politique qui est l'UDF, de laquelle appartenaient nos amis Jean-Claude Gaudin, enfin une moitié de la majorité municipale aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont toujours eu du mal à fonctionner avec l'autre parti qui était le RPR. Donc, ben voilà. Et je pense que le temps va faire son œuvre et qu'on est encore avec une génération qui a subi des fonctionnements ou des dysfonctionnements. Et la prochaine génération, ben, elle aura un autre avenir et d'autres perspectives.
Dernière question sur les renforts de poids qui sont venus ou qui risquent d'arriver. On a parlé de Ramayad. Bernard Tapie est toujours d'actualité ?
Bernard Tapie n'a jamais été d'actualité en tant que renfort. Il était à notre dîner de la République, parce que ça, c'est quelque chose d'important qu'on a organisé quand même. Le dîner de la République, c'était quoi ? C'était le 9 décembre à Paris. Le 9 décembre, c'est la date anniversaire de la loi de 1905, loi qui a institué la séparation des églises et de l'État en France et qui a instauré le principe de la laïcité. Donc ce dîner de la République, nous l'avions programmé depuis fort longtemps. Je suis, depuis que je suis à la manœuvre au Parti radical, toujours celle qui a dit ne lâchons jamais ce qui est essentiel et qui est la marque de fabrique de parti, c'est-à-dire la laïcité. J'ai été notamment à l'origine de la mise en place de la commission Stasi, devant laquelle j'ai été auditionnée pour...
Rappelons que Sophie Joissin lance la journée de la laïcité.
Voilà, notre Fédération des Bouches-du-Rhône qui a travaillé sur la cohésion républicaine et non pas sur l'identité nationale a fait une proposition qui était de dire on doit faire une journée nationale, le 9 décembre, journée nationale de la laïcité. C'est ça qui recréera du ciment entre les Français, de quelque opinion religieuse qu'il soit. Si on arrive à faire comprendre que la laïcité, c'est la garantie de la paix sociale. Et donc, Sophie Joissin a été à la manœuvre pour, au Sénat, déposer une proposition de loi. Le dîner de la République donc, a rassemblé tous les républicains.
Donc Bernard Tapie, parmi d'autres.
Qui était un convive parmi d'autres.
Sans arrière-pensée politique.
Mais il y avait Chevènement, Malek Douty.
Oui, il y avait des socialistes aussi. Oui.
Il y avait Chevènement, il y avait Malek Douty, il y avait Baillet, président des radicaux de gauche, hein, formation à laquelle appartient Bernard Tapie. Il y avait le président du Sénat, Larcher. Enfin, il y avait des tas de personnalités. C'était assez insolite, mais en même temps, ça avait plein de sens.
Pas de Bernard Tapie, donc.
Alors, on vient au sujet plus locaux, en passant par la case région, parce que vous y siégez. J'ai presque envie de dire, on va y passer vite. Enfin, vous êtes dans l'opposition. Cette institution, il y a une
réforme...
Oui,
je suis dans l'opposition, malheureusement, depuis 1998.
Oui, oui. Que peut faire une conseillère régionale d'opposition dans cette institution, compte tenu du contexte? Alors, il y a une réforme territoriale qui va un peu redistribuer les cartes. On a l'impression qu'on a une institution qui attend un petit peu de savoir un peu à quelle sauce elle va être mangée et que... Est-ce qu'il va vraiment s'y passer des choses dans ce conseil régional, en dehors de la gestion des dossiers un peu techniques, lycées et autres?
Oui. Écoutez, premier constat, la région, c'est une institution qui est encore méconnue par le citoyen de base, mais également l'attention suffisante, me semble-t-il, de la part des médias. Et c'est vrai que je comprends tout à fait, parce que quand je vois l'ordre du jour de nos assemblées plénières, je comprends que les journalistes prennent la poudre d'escampette au bout d'une heure.
Puis avec la réforme des collectivités, on risque pas de la comprendre. C'est terminé pour la région. C'est la dernière mandature telle qu'on la connaît.
Telle qu'on la connaît, oui. Mais donc peut-être que ça sera un bien. Mais en tout cas, parlons du présent et des quelques années quand même qui viennent de passer, dans lesquelles j'ai pu exercer ce mandat de conseillère régionale. Alors je vous disais, dans l'opposition, effectivement, on n'a pas grand moyen d'action. Hein, on peut intervenir... il y a les fonctionnements classiques, il y a les commissions, diverses commissions dans lesquelles on est inscrit, dans lesquelles on étudie les rapports, dans lesquelles on émet nos avis. Mais à partir du moment, si vous voulez, où on est dans une institution majoritaire, où il n'y a pas de marge de manœuvre, quand on était en majorité relative en 98... l'exécutif régional était bien plus préoccupé de connaître le positionnement des élus de son opposition, parce qu'il avait quelquefois besoin de savoir comment certains rapports allaient être votés. Hein. Aujourd'hui, il y a une majorité absolue, donc les choix sont faits. La seule tribune d'expression qu'on ait, c'est l'Assemblée régionale, sauf qu'elle est fuie par les médias, qui viennent juste pour la première heure dans le cadre de la déclaration de politique générale du président, qui donne lieu à quelques échanges, et puis les dossiers de fond, ils sont pas repris. Ils sont absolument pas repris. Et pourtant, il y a du travail de fond sur les compétences majeures, hein, sur la formation professionnelle. Alors vous dites c'est technique. C'est pas que technique. C'est profondément politique. C'est des options et des choix qui sont faits pour nos citoyens. Comment nos lycéens vont être accueillis dans les établissements scolaires, quelle formation professionnelle on va proposer, formation initiale c'est une compétence majeure de la région, la formation professionnelle. Tout le monde dit depuis des années que la formation qu'on propose ne correspond pas aux emplois potentiels dans la région. Bon, ma foi, je ne vois pas qu'on ait réajusté le tir dans les options régionales. Et pourtant, c'est l'avenir des enfants, c'est le travail potentiel qu'il y a derrière. Mmh. Voilà, donc le dénoncer, si vous me demandez quel rôle vous pouvez avoir, c'est le dénoncer publiquement quand on est en assemblée plénière, sauf que la difficulté, c'est que vous ne le relayez pas souvent.
Alors là, c'est Noël, je fais un paquet cadeau, puis là, le temps avance.
Est-ce que j'ai droit à un cadeau?
Oui, alors là, c'est un paquet cadeau sur la table du débat public, et c'est pas forcément très reluisant. C'est la question des affaires, alors qui se pose, il y a une affaire autour des problèmes d'associations fictives, etc. On en a parlé pendant la campagne déjà, c'était sur la place publique. Et puis, il y a aussi les affaires liées à Alexandre Guérini, frère de Jean-Noël Guérini, avec des incidences sur MPM, Marseille-Provence Métropole, où là encore, on a un lien avec la région, puisque le directeur de cabinet du président de MPM...
Monsieur
Dumontel, qui était avant directeur de cabinet de Michel Vauzelle, a démissionné suite à un certain nombre de fuites, hein, du dossier d'instruction dans la presse. Tout ça, tout ce climat, Vous avez un commentaire politique à faire sur...
Un commentaire personnel aussi.
Silencieux face à ça en attendant que justice se fasse, ou est-ce qu'il faut apporter une réponse, des commentaires face finalement aux interrogations que se posent les électeurs, les citoyens?
Alors, avant de répondre, on a eu beaucoup d'invités de la gauche, des Verts, des socialistes. Ils ont tous été d'une pudeur extrême sur ces sujets-là. On espère que vous, la droite, l'opposition, en l'occurrence à la région, et à MPM, allez avoir un discours peut-être un peu plus ferme.
Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, si je me suis engagée en politique, je me suis engagée sur des valeurs et des convictions. Que ce que je constate aujourd'hui, à la lueur des événements que vous avez retracés, c'est que le climat est parfaitement nauséabond, que je ne me sens pas à l'aise dans ce contexte-là. Mais que bien évidemment, j'ai été avocate, je suis très respectueuse des procédures judiciaires, je suis très respectueuse de ce qu'on appelle la présomption d'innocence, et je n'ai pas de jugement à porter sur qui que ce soit aujourd'hui, si ce n'est de dire que je souhaite que la lumière soit faite le plus rapidement possible, mais vraiment le plus rapidement possible, même si je connais les contraintes des calendrier judiciaire, je me dis que à certains moments, il faut prendre des décisions et peut-être accélérer le cours des choses. Et ça, c'est du domaine du possible. Et très honnêtement, que ça en finisse, que la lumière soit faite, que si des condamnations doivent être prononcées, qu'elles le soient à ce moment-là. Moi, je trouverai toute ma liberté de parole pour pouvoir dire ce que je pense sur la nature de ces condamnations. Mais je vous confirme qu'aujourd'hui, je répète les termes, le climat est nauséabond, insupportable.
C'est dû à quoi ? C'est une singularité régionale ? Parce que bon, il y a des élus de droite qui sont notamment concernés dans les autres départements. À Marseille, on parle vraiment d'une spécificité locale. Pourquoi ce genre d'activité beaucoup plus marquée ici qu'ailleurs ?
J'ai l'impression...
De travers plutôt que d'activité.
Je ne sais pas si on peut considérer que c'est spécifique à notre ville ou à notre région. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, chaque fois qu'il y a eu des problèmes de cet ordre, engageant des institutions, voire des hommes politiques, des fonctionnaires... ça a toujours pris des proportions incroyables chez nous, et que, en fin de compte, c'est toujours les Marseillais et les Marseillaises qui en étaient les victimes, parce que ça donne une image catastrophique de notre ville et du système politique au sens général. Donc moi, je récuse complètement ces procédés, les procédés que je découvre dans la presse que je lis. Dans les échos que vous en faites. Et ce sont des pratiques, évidemment, qui sont largement condamnables. Mais au-delà de ça, pour le moment, faites-moi la grâce de considérer que je n'ai pas à me prononcer vis-à-vis de qui que ce soit. Simplement, je demande à ce que la justice soit faite le plus rapidement possible.
Une condamnation ferme tout de même ?
Ah, mais des faits pareils, ça me paraît quand même... Bah, de toute façon, le cours de l'instruction prouve bien que ce soit dans une institution ou dans l'autre, il y a quand même eu des actes forts, des mises en examen, des mises en détention, donc il y a quand
vous
même...
Vous êtes quand même d'une prudence toute centriste. Hein.
Mais non,
Bruno Gilles
ou
Renaud Muselier sont beaucoup plus véhéments là-dessus. Hein.
Oui, bah ça c'est une question de tempérament. Moi, je suis...
Vous êtes plus Jean-Claude Gaudin dans cette affaire qui appelle solennellement au conseil municipal à de la tenue, etc., que Renaud Muselier qui dit il y a des questions politiques qui doivent être posées dès maintenant, compte tenu de ce qu'on peut déjà savoir.
Alors très honnêtement, je vais vous dire, nous avons réfléchi en groupe à notre conseil municipal. le dernier hein, conseil municipal, comment on allait s'exprimer, parce qu'évidemment ce que je vous dis, enfin d'autres le partagent, moi ça me heurte profondément. Bon. Est-ce que le conseil municipal était le lieu pour évoquer ce genre d'affaires? On avait 222 rapports qui concernaient les Marseillais, qui étaient importants, qui avaient du sens, qui était l'engagement politique de notre majorité pour notre ville. Est-ce qu'on devait occulter ces rapports et ouvrir le champ à un prétoire et que d'un côté et de l'autre, parce qu'évidemment il y aurait eu de la surenchère des deux côtés. Bon, alors qu'aujourd'hui on en est à un stade où rien n'est définitivement arrêté. Donc moi j'ai été de celle qui est souhaité que le maire et une posture qui doit être celle du premier magistrat de la ville, c'est-à-dire qu'ils prennent du recul, ils dénoncent, comme je suis en train de le dénoncer, hein, ce climat insupportable, insipide que nous traversons, et qu'ils disent le conseil municipal n'évoquera pas...
C'est un peu mettre la poussière sous le tapis quand même, ça, le cultus, non ?
Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Honnêtement, à part de dénoncer, vous croyez qu'il avance plus, mon ami Renaud Muselier ou mon ami Bruno Gilles, quand il dénonce ça ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Qu'est-ce qui se passe de plus ? C'est pas eux qui vont décider qui va être condamné. C'est pas eux qui ont la maîtrise de ça. C'est quand même les institutions judiciaires. Alors qu'on soit, moi je suis furieuse. Vous voyez que on présente les choses comme ça. Je vous dis sincèrement ce que je pense. Je vous dis que je dénonce et que je suis catastrophée que de telles pratiques puissent avoir lieu chez nous. Mais je ne suis pas en mesure de juger les protagonistes. Et je suis une élue avant tout. Voilà. Donc je dois, vis-à-vis de mes citoyens, plutôt avoir un climat, entretenir un climat d'apaisement et de responsabilité, plutôt que d'organiser la guerre civile à l'intérieur de chacune des institutions.
Dans une logique de transparence et peut-être de clarification, est-ce que, vous ne siégez pas au Conseil Général, mais Jean-Noël Guérini était candidat à la mairie de Marseille, il est quasiment pour la prochaine échéance, est-ce que vous pouvez dire à ce jour qu'il devra s'expliquer sur l'absence de conflit d'intérêts entre lui et son frère? Est-ce qu'il va devoir politiquement s'expliquer sur ces affaires-là? Politiquement, hein, j'entends pas devant la justice, peut-être plus tard, mais est-ce que politiquement il a quelque chose à dire? Est-ce qu'il peut rester silencieux, se contenter de dire moi c'est moi, lui c'est lui? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une parole politique de ce responsable politique majeur dans ce territoire qui est Jean-Noël Guérini?
Moi, écoutez, je serai à sa place, ce que je ne souhaite absolument pas et ce qui est fortement improbable. Mais je serai à sa place, c'est effectivement la posture que je prendrai vis-à-vis des Marseillais. Hein, là, j'ai lu très attentivement son expression dans la Provence. Quand j'ai vu Jean-Noël Guérini parler, je me suis dit, tiens, peut-être qu'on aura des explications. On en a eu sur un registre tout à fait personnel, mais pas effectivement sur un registre politique. Donc je pense que c'est effectivement un exercice incontournable.
Alors le malaise dans la classe politique, le malaise également dans les villes, avec des quartiers à Marseille qui sont vraiment en proie à la violence, à la délinquance, ces derniers jours des faits divers assez gravissimes se sont produits. Comment vous expliquez ce malaise? C'est la crise? C'est la dichotomie qu'il y a entre politique, quartier, citoyen?
Je crois que c'est quelque chose de bien plus profond que la crise. Je crois que c'est quelque chose qui a trait à un certain confort, et je mâche pas mes mots, là pour une fois vous allez être contents, un certain confort de la classe politique en général vis-à-vis de ce qui se passe dans nos cités. Et cette espèce de discours parfaitement lénifiant que nous avons globalement à Marseille, et qui est de dire à Marseille, nous on gère, ça se passe pas comme ailleurs, le climat social est apaisé, on arrive, les communautés se parlent, etc. Nous, tout, ça va, on n'a pas les banlieues, les quartiers sont à l'intérieur de la ville, etc. À force de dire ça, et je vous le dis d'autant plus que j'ai depuis 2 ans l'expérience concrète de ce qui se passe dans les cités à travers mon rôle de bailleur social. Hein. Je suis au conseil d'administration d'HMP, j'en suis la vice-présidente et je préside une société qui s'appelle Marseille Habitat et qui gère 3200 logements sociaux, notamment à la Paternelle, notamment à la cité Bassins. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui dans nos cités est extrêmement grave.
Alors c'est dû à quoi? Une politique, pour aller très très vite parce que le temps avance, il y a un système de ghetto qui s'est mis en place, dont vous avez hérité, puisque la majorité municipale est là depuis 95. C'est quoi? C'est cette espèce de ghetto? En même temps, l'opposition vous reproche de faire des constructions qui sont à 70% dans les quartiers nord, qui vont continuer. Vous dites quoi?
C'est quand même très compliqué de répondre à la demande de logement qui est considérable à Marseille et de ne pas construire de logement. Vous voyez, c'est quand même un exercice qui est difficile.
Alors dites-nous, vous qui avez ça en charge, est-ce qu'il y a un vrai partage des logements sociaux dans cette ville ou est-ce, comme le dit l'opposition, tout se fait encore une fois dans les quartiers nord
pour aller? Moi, j'aimerais qu'on sorte des carcans idéologiques. Voilà.
Enfin, là, c'est plutôt de la géographie.
Non, c'est des carcans. Non. Ce sont des carcans idéologiques. Parce que ça part d'une perception du logement social qui est complètement dépassée. Aujourd'hui, quand on crée du logement social, on ne crée pas des tours comme on créait dans les années 60. On ne crée pas ce qui va devenir et ce qui est devenu des ghettos. On crée des petites unités de logement à taille humaine où la vie sociale est tout à fait apaisée, rien que par la configuration des bâtiments. Et on y veille vraiment. Bon, ensuite, je suis désolée, mais j'ai renvoyé le terme de carcan idéologique à la gauche au dernier conseil municipal. On fait des efforts considérables. On part effectivement d'un constat qui est un héritage, on va dire commun parce qu'on est gentil, hein, qui est que la moitié nord de notre ville a été vraiment le lieu d'accueil du logement social de l'époque. Mais à l'époque, c'était, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui revient, à l'époque, aller dans un logement social, c'était pour les populations qui y allaient, un parcours résidentiel extraordinaire. On franchissait une étape.
Je rappelle qu'il y avait des bidonvilles dans les quartiers nord, que voilà. Les logements sociaux ont venu se substituer
donc,
à ces bidonvilles.
Donc, oui, voilà, on était dans des logements où il n'y avait pas de toilettes ou que des toilettes communes. On se retrouve dans un appartement. Bon, très bien. Sauf qu'avec le temps, ça s'est complètement dégradé, à la fois en termes de population et à la fois. Et aujourd'hui, les gens qui habitent les 15e, 16e, 14e, 13e, ce qu'ils veulent, c'est du logement dans leur territoire. Ils ne veulent pas aller loger ailleurs. C'est ça qui est très important. Les Marseillais sont attachés à leur quartier. Et si vous proposez à des habitants du 14e d'aller dans le 10e, ils n'ont pas envie. C'est pas ça qu'ils veulent. Voilà. Et ensuite, il y a un problème technique qui est évident, c'est que les terrains disponibles pour les constructions, c'est sur ces territoires. On reconstruit à partir des friches industrielles. Et c'est là qu'il y a du terrain disponible. Et en plus, j'aimerais quand même mettre l'accent sur un dispositif qui est celui de l'accession sociale à la propriété, qu'a encouragé et mis en place la mairie, et que je défends ardemment, et qui a permis...
Qui est pour l'instant en deçà de vos voeux. Des vœux de lumière.
Non, les miens, ils sont... Écoutez, moi, je suis passée... J'avais 172 familles qui avaient bénéficié du chèque premier logement en avril 2008, quand je suis arrivée dans cette municipalité. À la fin de cette année, au dernier conseil municipal, j'en suis à 2000 familles. C'est pas rien, 2000 familles, quand on sait qu'en moyenne, il y a 3 à 4 personnes. C'est donc 2000 familles qui sont devenues propriétaires et la plupart des programmes d'accession sociale à la propriété se sont réalisés dans les 14e, 15e et 16e arrondissement de la ville.
Michel ?
Dernier mot pour finir, on n'a pas pu tout aborder, c'est trop passionnant l'histoire du Parti Radical au National. Jean-Louis Borloo avait promis le Parc National des Calanques à Noël aux Marseillais, et c'est raté.
Ben oui, apparemment c'est raté.
Donc.
C'est raté, mais c'est pas désespéré. Et on va se battre pour qu'il soit, parce que c'est le projet le plus important pour notre ville, le premier parc urbain national. Ça vaut le coup qu'on ait un consensus global et qu'on gomme les dernières aspérités qui restent en suspens.
Arlette Ructus, vous représentez les radicaux valoisiens, les radicaux de droite. Vous défendez votre indépendance. On peut imaginer en 2014 une candidature Arlette Ructus ou radicale à la mairie de Marseille?
Écoutez,
au premier tour en tout cas.
Vous me laissez beaucoup d'espoir. non, mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Marseille vaut bien des combats.
On vous remercie, on vous laisse sur ce mot-là, on vous souhaite une excellente année et on se retrouve bien entendu l'année prochaine. N'oubliez pas, le Ravi, c'est dans tous les kiosques. Bye.